Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et comme chaque semaine, nous allons vous parler de tradition, de savoir-faire, de tourisme. En parlant de tourisme, ce dimanche, on va vous faire découvrir la dune la plus haute d'Europe, je vous laisse deviner. Et en fin d'émission, on va revenir sur ce week-end du 15 août et la fête de l'Assomption, un point d'orgue de l'année pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Nous serons avec le recteur du sanctuaire, il nous parlera justement de l'arrivée de tous ces pèlerins, comment ils ont dû s'organiser pour les recevoir. Mais tout de suite, il est temps de retrouver Thibaut, notre French tuteur, qui s'est lancé dans la grande avenue du GR20 en Corse. Alors Thibaut, où êtes-vous?
Bonjour Nathalie. Eh bien, je suis en plein centre de la Corse. J'ai parcouru un peu plus de la moitié du chemin. Et j'espère arriver à Conca, à la fin du parcours, qui est dans le sud, dans quelques jours, si tout va bien.
C'est bien parce qu'avec vous, dans cette émission, on voyage toujours. Alors, en général, vous ne lancez pas des défis. Hein, mais bon, là, c'est un vrai défi sportif.
Ah
alors,
oui, c'est un vrai défi. Ouais.
Vos impressions, alors, vous n'avez pas trop mal aux pieds?
C'est dur. On marche dans les cailloux et les rochers toute la journée. Parfois, ça me rend de façon très raide. Il faut s'aider des mains pour pouvoir grimper. Et il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on peut être déséquilibré par son sac à dos. Mais sinon, non, j'ai pas trop de bobos, pas trop de courbatures, ni de mal aux pieds. J'étais un peu entraîné.
Vous êtes beaucoup à le faire, ce GR20, chaque été?
Plusieurs dizaines, plusieurs centaines, je crois. Cet été, c'est un peu particulier. Les Allemands qui viennent en masse faire cette marche ne sont pas là, ou très peu. Il y a beaucoup d'Italiens, mais moins que d'habitude. Donc oui, théoriquement, il y a beaucoup de monde, mais il y en a moins que les années précédentes, il paraît.
Bon, vous en profitez quand même. Et donc tout à l'heure, vous allez nous faire découvrir justement un petit peu les impressions des uns et des autres que vous avez pu recueillir sur ce trajet?
Exactement, j'ai rencontré plein de gens parce que c'est un peu comme une famille, hein, le GR20. Chacun va à son rythme. On se retrouve tous le soir au refuge, on discute, on échange. Et donc tout à l'heure, je vous propose de faire connaissance avec des personnes que j'ai croisées sur le sentier.
Très bien, comme ça on pourra vivre de l'intérieur les vacances de certains Français, notamment ceux qui ont choisi de faire le GR20 en Corse, les plus courageux je vais dire.
Les plus courageux, voilà, les plus aguerris.
Merci Thibaut, on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission. Au revoir.
Au revoir.
Allez, et si on partait tout de suite en croisière?
Sud Radio, c'est ça la France. Exciting and
new. Come aboard. Pour les amoureux des voyages sur l'eau, les croisières fluviales ont repris un peu partout en France, sur la Garonne, en Dordogne, en Gironde. On en parle tout de suite dans C'est ça la France avec Éric Collange, directeur commercial France de CroisiEurope. Bonjour Éric Collange.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Nous sommes ravis de vous avoir. Alors vous avez repris vous récemment, je crois la semaine dernière?
Ah, un peu. Alors pour la Gironde, oui, nous avons repris la semaine dernière, mais nos croisières ont recommencé le 18 juillet exactement.
18
Donc depuis
juillet.
Le mois de juillet, nous avons repris effectivement progressivement, pratiquement sur tous les fleuves de France et d'Europe, nos croisières.
Vous êtes l'un des plus gros acteurs hein, justement de ces croisières sur l'Europe, comme vous le disiez, hein, sur les fleuves d'Europe. Vous démarrez par étapes hein? Vous n'avez pas encore sur tous les bateaux? Ça se fait petit à petit ou bien là c'est bon? Vous avez retrouvé votre rythme de croisière?
Alors, on n'est pas totalement sur un rythme de croisière, mais en tout cas, on est très satisfait puisque les clients sont nos passagers sont au rendez-vous. Effectivement, nos croisiéristes sont au rendez-vous de ces croisières. Nous assistons à des demandes régulières, beaucoup de dernières minutes. Nous constatons beaucoup de dernières minutes et nous sommes agréablement surpris par l'engouement. Vous parliez de la Gironde. Eh bien, par exemple, le bateau, le Cyrano de Bergerac, qui aujourd'hui sur la Gironde, fonctionne normalement avec l'ensemble de nos croisières, des croisières de 6 jours, de 5 jours, de 7 jours. Et ça, c'est plutôt très satisfaisant. On a aussi mis une croisière avec votre collègue, vous parliez du Tour de Corse en randonnée sur le GR20, là. Eh bien, on a cette croisière à bord de la Belle de l'Océan qui fait le Tour de Corse, qui est un véritable succès, écoutez, sur septembre-octobre. On l'a lancé au mois de juin, cette croisière.
Et au mois de juin?
Oui, petit bateau. C'est un petit bateau de mer, mais très luxueux. 120 personnes maximum. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans la convivialité. Et cette croisière est un véritable succès au mois de septembre, sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Donc, on est très contents.
Quel est l'état d'esprit, justement, de l'équipe, hein, après 4 mois et demi d'arrêt, quand on reprend comme ça? Bon, ça fait à peu près un mois que vous avez déjà repris, mais
ça
fait du bien de retrouver
ça fait du bien.
De revoir des gens, des touristes heureux.
Ah, je vous confirme que pour l'entreprise, c'est un vrai soulagement d'avoir repris cette activité. On espère effectivement, bien entendu, que ça va être pérenne sur la saison d'hiver. Mais en tout cas, pour après ces 2 mois où nos bateaux, parce que nos bateaux ont été effectivement totalement arrêtés hein, jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire d'avril à juillet, les bateaux ont été arrêtés, la compagnie était en veille, mais ce qui a fait notre force, c'est qu'on a toujours cru à cette reprise. Donc,
Oui.
aujourd'hui, arriver au mois de juillet et voir à nouveau nos bateaux naviguer,
Ah, c'est le bonheur.
c'est le bonheur et c'est le bonheur aussi pour cette compagnie qui est familiale, si vous voulez, parce que il faut savoir que la compagnie qui est gérée par une famille, hein, une famille depuis 3 générations maintenant, voir ses bateaux à l'arrêt, c'était un
Bien
véritable
sûr.
drame. Rien n'était prévu, personne n'avait prévu, on était parti pour faire une saison extraordinaire. Et moi, j'ai vraiment une pensée, effectivement, pour mes patrons, mais pour la famille Schmitter, qui réussissent ce tour de force de pouvoir remettre les bateaux en navigation très tôt. Et cette société française qui fait, encore une fois, hein, travailler plus de 1 500 collaborateurs sous contrat français, on est ravis, effectivement, parce que je dois avouer que le monde du tourisme a été particulièrement touché, oui.
Oui, puis vous avez vu, les grosses péniches ont encore du mal à reprendre, hein, petit à petit, ça reprend, mais bon, c'est pas si simple que ça, donc c'est normal, hein, il a fallu du temps pour, je pense, j'imagine, vous réorganiser avec les règles sanitaires qui ont peut-être retardé un peu le début des festivités, hein.
C'est ça. Alors les règles sanitaires, on les respecte, hein, et surtout qu'on a le Safe Security à bord qui est validé par le bureau Veritas. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Mais je crois que le message qu'il faut faire passer, c'est que les premiers retours qu'on a, parce qu'on a des premiers retours, les premiers retours sont fantastiques, les gens sont ravis. Je crois que ça se passe bien. Et ce qu'on veut, c'est surtout garder, bien sûr, dans les normes sanitaires, cet esprit vacances.
C'est
Je
ça,
crois que c'est
on
essentiel.
oublie, c'est ça. Il y a les règles à suivre, donc j'imagine qu'il y a le masque,
Bien
des
sûr,
distances. Comment vous avez fait d'ailleurs au niveau du service, du dîner, du déjeuner? Vous avez dû vous
bah,
réorganiser là
alors
aussi?
pour nous, si vous voulez, ça change pas, ça a pas changé énormément dans la mesure où nos bateaux sont quand même de petite capacité. Donc c'est-à-dire qu'on a des bateaux qui font entre 20 et 160, 170 personnes pour les plus importants. On avait déjà ce service à bord à l'assiette, donc on était très tourné vers la gastronomie. Donc, si vous voulez, on n'avait pas de buffet, on était vraiment servi à l'assiette. Donc, ça n'a pas modifié
Ouais.
grand-chose. La simple chose qu'on a vraiment modifiée, c'est qu'on a mis 2 services au lieu d'un.
Oh,
Voilà. Donc,
d'accord.
c'est-à-dire que pour respecter la distanciation, on a mis 2 services au lieu d'un. Et puis, vous savez, les passagers, les croisiéristes passent beaucoup de temps sur le pont Soleil. Et le pont Soleil,
C'est
vous êtes
déconfiné.
en plein air. Voilà. Vous êtes déconfiné. Et c'est assez apaisant en même temps, vu le climat actuel. Je dois avouer que je reviens justement de cette croisière magnifique là sur la Corse, et je dois avouer que passer du temps comme ça fait du bien à l'esprit, je vous promets.
Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent, enfin, qui n'ont jamais eu l'occasion, hein, de partir en croisière, en ce moment, c'est très intéressant, hein, d'un point de vue prix, hein. Il y a une grosse stratégie commerciale qui a été mise en place pas mal d'acteurs dans ce domaine-là pour faire revenir les clients.
Alors, je crois qu'il faut pas se tromper. Je crois pas que ce soit le prix aujourd'hui qui va nécessiter l'envie. La première, c'est de leur donner envie de voyager, leur donner la qualité. Alors effectivement, on a adapté les mesures. On a adapté les mesures, c'est-à-dire qu'on a mis la possibilité d'annuler jusqu'à 15 jours sans frais pour les personnes qui
Mais
voyagent
ça
seules.
rassure, hein, les touristes, hein,
Ah bien sûr,
pour
ça c'est
s'engager.
bien sûr, bien sûr, bien entendu, ça rassure. Donc ça c'est une des premières mesures qu'on a prises, c'est-à-dire réserver où vous voulez et vous pouvez possibilité d'annuler ou de modifier à 15 jours du départ sans frais. On a mis par exemple la single offerte, hein, la single offerte ou à 50% selon les croisières. Vous avez soit la single offerte, soit à 50%, donc pour les personnes seules, c'est aussi un point positif. Et puis on a fait les enfants gratuits sur les fleuves de France, sur la Corse. Et les enfants gratuits moins de 16 ans ou jusqu'à 16 ans, et je crois que ça a été un excellent levier, parce que c'est aussi un beau moyen de découvrir la France autrement ou d'autres régions, et permettez-moi l'expression, de ne pas voyager idiot. Donc un certain nombre de parents y ont été très sensibles.
Oui, et puis comme on l'a vu, hein, dans beaucoup de régions de France, ça a été aussi l'occasion de séduire un autre public, hein, qui n'avait pas l'habitude soit de voyager l'été en France, ou tout simplement qui n'est pas habitué à ce type de croisière. Donc c'est en ça que finalement c'est aussi une période, on va dire, intéressante pour pouvoir eh bien séduire davantage.
Vous avez raison, et en plus un certain nombre de Parisiens, par exemple, se sont réappropriés leur fleuve. Alors je dis Parisiens, mais c'est aussi le cas pour les Normands. Je prends l'exemple de la Seine. Eh bien, sur la Seine, ce fleuve qui est absolument merveilleux, hein, qui est certainement un des plus gros fleuves de France, qui est méconnu, eh bien, un certain nombre de Parisiens, de jeunes générations, sont appropriés effectivement ce fleuve et ont voulu découvrir finalement leur région à bord d'un bateau. Ouais. Et je peux vous garantir que le succès, c'est vrai, au rendez-vous. Les personnes sont très étonnées de la beauté des paysages qu'ils peuvent traverser.
Que la France est belle.
Et la qualité des services qu'on propose.
Alors, dernière question, Eric Collange. Il faut le rappeler, ça aussi, pour les hôteliers, les restaurateurs. Oh là là, ce tourisme fluvial est très important pour beaucoup de villes.
Bien sûr, puisque notre activité fait vivre énormément de monde. Je pense en particulier aux autocaristes, qui effectivement s'occupent des excursions pour tous les monuments de France que l'on va visiter, pour les guides. Donc notre activité aujourd'hui est primordiale pour tout un bassin économique.
Ouais.
Pour tout un bassin économique. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, on est très content de participer effectivement à cette remontée progressive, hein, et on espère qu'elle va continuer, cette remontée progressive du tourisme local. Oui.
Et on l'espère pour vous également. Merci beaucoup Eric Collange, je rappelle que vous êtes directeur commercial France de Croisi Europe. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
C'est nous qui vous remercions, bonne journée, merci à vous.
Merci et bon dimanche.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Dans quelques instants, nous allons découvrir une start-up qui elle a fait le pari des toutes petites péniches qui se louent, et ça fonctionne. On en parle dans une poignée de secondes.
Sud Radio, c'est ça la France.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Allez, il est temps de découvrir une start-up créée en 2013, spécialisée dans la location des petites péniches. Une entreprise en plein boom. On en parle tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec le cofondateur de Click and Boat. Bonjour Edouard Goriou.
Bonjour.
Alors cette plateforme propose la location de petits bateaux, de petites péniches. C'est quoi un petit bateau pour vous? C'est quelle taille?
Voilà, alors pas forcément que de petits bateaux, puisqu'on a 45 000 bateaux qui sont proposés à la location sur Click and Boat partout dans le monde. Et on propose aussi bien des bateaux à moteur, des voiliers, des catamarans, des semi-rigides, également des péniches comme vous le précisiez dans votre introduction. Donc c'est vraiment voilà tout type de bateaux.
Il y en a pour tous les goûts.
Exactement.
Alors, gros succès, hein. Les demandes ont fortement augmenté, hein, sur votre plateforme. Vous avez vu une progression de plus de 71% en France, c'est ça, par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cette progression?
Exactement. Bah, écoutez, je pense qu'après les quelques mois de confinement, les Français n'ont jamais eu autant envie de s'évader, de prendre l'air. Et finalement, un bateau, bah, c'est le meilleur moyen pour vivre des vacances extraordinaires, tout en restant proche de chez soi et en passant des moments absolument formidables avec sa famille ou ses amis. Donc je pense que finalement pour cet été 2020, ça reflète vraiment un besoin d'évasion, un besoin de prendre l'air, un besoin de prendre le large.
Un peu comme la montagne qui a été la grande gagnante aussi cet été, avec un public nouveau. Les camping-cars, hein, beaucoup de gens ont loué effectivement des camping-cars. Il y a peut-être cette volonté de fuir les lieux publics, la foule.
Tout à fait, et c'est vrai que sur un bateau, on est par définition en petit comité, puisqu'on est en général entre 6 et 10 personnes. La plupart du temps dans un contexte familial ou amical. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour découvrir une petite plage déserte, une île, et aller passer une journée ou une semaine hors du commun, très facilement et très simplement avec Click and Boat.
Alors expliquez-nous comment ça fonctionne.
Bah, écoutez, c'est très simple. Donc Click and Boat aujourd'hui, c'est la plateforme de référence pour la location de bateaux en ligne. Donc que vous cherchiez à partir en mer pour une journée ou une semaine, vous rendez sur clickandboat.com, vous rentrez votre port de départ et là il y a toutes les offres qui sont disponibles avec ou sans skipper. Ce qui est intéressant, c'est que certaines offres commencent à partir de 15 euros par jour et par personne, donc le budget est tout à fait abordable pour passer une semaine extraordinaire.
Alors c'est ce qu'on vous appelez un peu le Airbnb du bateau. Ce sont des propriétaires qui mettent à disposition leur bateau?
Ce sont les propriétaires qui mettent à disposition leurs bateaux, c'est ça, qui peuvent être des propriétaires particuliers ou professionnels. On peut, sur Click & Boat, aussi bien louer le bateau d'un particulier que choisir un bateau accessible en ligne qui appartient à un professionnel et qui fait partie d'une flotte de bateaux.
Quel est le Dites-moi, pardon.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 45 000 bateaux qui sont disponibles partout dans le monde.
C'est ça. Alors, le profil de votre clientèle, c'est plutôt familial, plutôt pour des vacances privées?
C'est très varié puisque, comme je vous le disais, on trouve pour tous les goûts sur clickandboat.com, tous les budgets, tous les types de projets aussi, puisqu'on a des bateaux à moteur donc qui sont essentiellement loués pour une demi-journée ou une journée. Par exemple, si vous êtes à Marseille et que vous avez envie de découvrir les Calanques par la mer, c'est typiquement le genre de location qui fonctionne très bien sur Click & Boat. Mais on propose aussi des voiliers, des catamarans qui sont la plupart du temps loués à la semaine avec ou sans skipper et qui là permettent vraiment d'aller passer une semaine de vacances sur un bateau, sur un voilier et d'aller découvrir finalement un mode de vacances totalement différent.
Alors, question pratique, je n'ai pas de permis bateau, je pars avec un skipper obligatoirement ou bien vous faites comme certains bateliers, on peut délivrer un permis provisoire avec une petite formation juste avant? Comment ça se passe chez vous?
Alors, si vous n'avez pas de permis bateau, vous avez en effet une possibilité de partir avec un skipper sur Click & Boat, c'est-à-dire que ce soit un skipper sur un bateau à moteur ou sur un voilier catamaran si vous voulez partir pour une semaine de vacances. Il y a une spécificité en France qui fait que pour les voiliers catamarans, le permis n'est pas obligatoire. En revanche, évidemment, naviguer sur un voilier, ça demande des compétences nautiques. Donc, si jamais vous n'avez ni permis ni compétences nautiques, c'est tout à fait possible de partir avec un skipper très facilement.
D'ailleurs, comment faire pour vérifier que... Imaginez que vous avez face à vous une clientèle qui n'a pas envie de partir avec un skipper, pour vraiment rester en intimité totale. Comment est-ce qu'on peut juger de sa capacité à être capable de naviguer, de prendre soin du bateau?
Alors, il y a un CV nautique qui est rempli sur le site par les locataires. Et puis, évidemment, ce CV nautique est vérifié lors de la prise en main du bateau par le propriétaire, qu'il soit particulier ou professionnel. La plupart du temps, le propriétaire s'assure des compétences nautiques suffisantes pour le projet de navigation du locataire.
Alors, vous le disiez, vous êtes un peu partout en Europe, hein, présent partout, donc dans le monde d'ailleurs, même pas qu'en Europe, dans le monde. Votre dernière acquisition est espagnole?
Tout à fait, on a annoncé en juillet l'acquisition de notre principal concurrent européen qui est basé à Barcelone et qui s'appelle Nautal, qui nous permet à la fois d'agrandir notre flotte et notre clientèle.
Alors d'où vient cette passion pour les bateaux? Comment vous avez eu cette idée justement de Click & Boat, de créer cette plateforme pour pouvoir permettre la location assez facile de bateaux?
Tout a commencé en 2013 avec mon associé Jérémy Bismuth. On est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'il était très difficile en 2013 de trouver un bateau en location sur Internet. Ouais. La seule façon pour réserver un bateau, c'était finalement d'être dans son lieu de vacances, sur place, et d'aller dans une boutique de location. Mais ce qui rendait finalement la location assez compliquée. Donc ça, c'était vraiment le premier constat. C'était rendre facile et rapide la location d'un bateau tout en permettant à des potentiels locataires de comparer les prix, d'échanger avec des propriétaires en étant à distance. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'était plus un constat côté propriétaire, à savoir qu'un bateau coûte cher à son propriétaire, puisqu'on parle d'environ 10% de son prix d'achat tous les ans en charge.
Ah oui, donc, ouais. Ça lui permet de l'entretien, l'amortir, quoi. Ouais,
exactement.
Les dépenses.
Et en plus de ça, il n'est utilisé qu'une dizaine de jours par an. Donc, c'était vraiment, vraiment ce double constat, à la fois une difficulté côté locataire et un besoin de rentabiliser son actif côté propriétaire.
Ouais. Et donc désormais, vous le disiez, une flotte de 45 000 bateaux avec cette dernière acquisition comprise?
Tout à fait.
Merci. Merci pour cet éclairage, Edouard Goriot. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Click & Boat, donc la plateforme qui vous permet de louer très facilement des bateaux, hein, différentes tailles de bateaux, à moteur, à voile. Vous le disiez, vraiment, la gamme est très, très large, de façon à pouvoir partir un week-end, une semaine, en famille ou avec des amis. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci beaucoup.
Bon dimanche. Au revoir.
Merci à vous aussi.
En période estivale, s'il y a bien un produit qui est toujours au rendez-vous et qui bat son plein, c'est l'eau minérale. On en parle tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et on va s'intéresser tout de suite à un produit qui est fortement consommé, alors déjà toute l'année, mais particulièrement l'été, un indice en musique.
Sud Radio, c'est ça la France.
Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, il n'y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau.
C'est de l'eau, et oui, c'est le produit qui est particulièrement consommé par les Français. Nous sommes en ligne avec Mathieu Lignac pour en parler, directeur marketing. J'espère que je vais bien le prononcer, chez OGE Europe, OGE. Bonjour Mathieu Lignac.
Bonjour Nathalie, oui, c'est bien ça, c'est OGE, O-G-E-U.
Europe. Alors, vous travaillez donc pour différentes eaux minérales. Pouvez-vous nous les rappeler d'ailleurs, ces eaux sur lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous travaillez?
Alors, le groupe OGE, en fait, est leader des eaux minérales naturelles régionales. Le groupe, effectivement, distribue des eaux minérales régionales à 5 sources aujourd'hui. Donc, OGE dans les Pyrénées, Sainte-Bonne, qui est une eau minérale de Provence, Quézac, qui est en Lozère, Planquette, qui est l'eau minérale
Bretagne.
De Bretagne, exactement. Une petite dernière qui va arriver sur septembre, qui s'appelle Lutetia, qui est la seule eau minérale naturelle d'Île-de-France, parce que en Île-de-France, également, il y a des eaux minérales naturelles, donc d'une très, très grande qualité. Il y en a une seule, c'est Lutetia. Et il y a une autre source qui est dans les Alpes, avec une marque qui s'appelle Valécrin.
Ouais. Alors, on va revenir sur ces eaux minérales naturelles. On est de gros consommateurs d'eau minérale en France. Est-ce qu'on a des chiffres sur cette consommation?
Alors, effectivement, en France, on consomme beaucoup d'eau minérale naturelle. En 2019, il y a eu sur l'eau minérale naturelle plate environ 6 milliards de litres d'acheter en grande distribution. Et sur les eaux minérales naturelles gazeuses, environ 1,2 milliard de litres.
Ouais. Et pendant le confinement, je crois qu'on a été nombreux à en consommer également. Vous n'avez pas chômé, vous, pendant cette période?
Alors, effectivement, il y a eu des marques qui se sont plus ou moins bien comportées. De notre côté, effectivement, nos marques se sont très, très bien comportées. Pourquoi? Parce que on a des sources vraiment qui sont régionales. Tout à l'heure, dans l'émission juste précédente, le maraîcher le disait qu'il y a vraiment cette tendance locavore. Donc, on peut être aussi locavore sur les eaux et en fait acheter une eau de sa région. C'est le cas.
On ressent ça, le plaisir d'acheter justement, quand on est en Bretagne, on va privilégier la Planquette parce qu'on se dit voilà, que c'est une eau de la région. Est-ce que les restaurateurs, les particuliers, les touristes jouent ce jeu-là?
Oui, alors après, avec plus ou moins de succès selon les régions, mais en tout cas, le local, ou même le touriste, effectivement, aime consommer local, et on le ressent, c'est toujours une fierté, de toute façon, de consommer l'eau de sa région, tout à fait.
Ça fait partie des vacances, effectivement, de goûter l'eau de la région. Alors, je voulais revenir sur une très jolie marque, un Quézac, en Lozère. C'est vrai qu'à côté, pour en citer d'autres, mais à côté des grosses marques comme Perrier, bon, c'est un petit poussin, mais c'est combien de litres d'eau vendue chaque année à Quézac? Combien de bouteilles?
Alors Quézac, c'est déjà c'est une grosse eau en fait, et une très, très, très grosse marque. En fait, elle est connue par 92% des Français. Ouais. C'est la cinquième marque en fait d'eau minérale naturelle gazeuse en France. Et il y a 80 millions de litres en fait, ouais, qui sont consommés tous les ans de Quézac.
Mais alors, question qui va peut-être vous paraître naïve, c'est quoi le process de fabrication justement d'une eau gazeuse? Est-ce que c'est une eau qu'on récupère telle quelle de sa source, il faut juste la mettre en bouteille? Comment ça se passe?
Alors, il y a deux types d'eau gazeuse. Il y a l'eau minérale, en fait, qui est plate à la base et sur laquelle on va rajouter du gaz. Et puis, il y a l'eau minérale qui est naturellement gazeuse. Quézac, c'est une eau minérale qui est naturellement gazeuse. Donc, en fait, le process est assez simple, c'est-à-dire qu'on va prendre l'eau, on va enlever le gaz pour le temps que le process de fabrication et d'embouteillage se mettent en place, pour ne pas perdre ce gaz qui est volatile, et on va le remettre ensuite dans l'eau. Alors, c'est un process qui se fait en quelques secondes seulement, mais effectivement, on enlève le gaz pour le remettre. Et 100% du gaz qui est enlevé est remis ensuite dans l'eau. Donc c'est quelque chose de très très simple, et ensuite, en fonction des produits, on peut en remettre plus ou moins, en rajouter si on veut une bulle plus ou moins grosse.
Il y a une vraie différence de goût entre ces différentes eaux gazeuses. Si on vous bande les yeux, vous êtes capable de les reconnaître au goût?
Alors, il y a beaucoup d'eau minérale gazeuse en France, donc je pourrais pas vous dire que je reconnaîtrais 100% des eaux minérales gazeuses à l'aveugle. Par contre, il y a une vraie différence de goût. Pourquoi? Parce que c'est important de le souligner. L'eau minérale, en fait, naturelle, c'est une eau qui puisait dans le sol et qui a traversé en fait des couches de roches. Ouais. Et en traversant ces couches de roches, ça s'est chargé en fait des minéraux associés. Et donc forcément, si vous traversez une couche de, si vous êtes plus riche en magnésium, en calcium ou d'autres minéraux, ben vous allez ressentir ce goût-là. Et Quézac, en fait, a vraiment un goût particulier. C'est ce qui en fait d'ailleurs cette force. Les Français adorent le goût de Quézac et c'est un goût qui est vraiment identifiable. Ouais.
Oui, c'est un goût identifiable et en même temps assez neutre, je trouve. Elle n'est pas trop salée, elle est, au niveau des bulles, elle n'est pas non plus trop chargée en bulles, puisque bon, c'est des bulles naturelles, mais ça pourrait être une source très chargée en bulles. Elle est peut-être un goût qui passe facilement.
Alors, c'est exactement ça. Il y a trois points qui sont très importants sur Quézac, et quand on questionne nos consommateurs, ce sont trois points qui reviennent systématiquement. Un, il y a effectivement ce goût qui est assez léger, mais qui est identifiable. Ça ne vient pas, c'est pas marqué, c'est assez équilibré. Donc, les consommateurs tiennent à ce goût vraiment de Quézac. La deuxième chose, en fait, c'est vraiment la bulle, la taille de bulle que le consommateur adore, et justement ni trop grosse, ni trop petite. C'est une bulle qui peut être consommée dès le matin jusqu'à la fin de journée. Ça, c'est vraiment quelque chose que les consommateurs identifient. Et la troisième, alors ça vient pas de la ressource naturelle, mais c'est quelque chose que les consommateurs apprécient énormément. C'est cette bouteille, en fait, cette forme de bouteille, ce bleu de bouteille que le consommateur est très, très fier et va absolument conserver.
Mais alors, comment on se renouvelle dans les eaux minérales gazeuses? Est-ce qu'on va jouer sur justement des bulles plus ou moins grosses, des saveurs nouvelles? Parce qu'il faut, j'imagine, pour vous également, constamment séduire un nouveau public, un public jeune qui est peut-être plus soda. Enfin, comment vous faites?
Exactement. En fait, il y a trois grosses solutions, en tout cas, que le groupe au jeu met en place. La première, effectivement, c'est on peut jouer sur la taille de bulle. C'est par exemple le cas de l'innovation de Quézac Intense qui a été lancée en 2001, c'est-à-dire qu'on va rajouter du gaz en plus du gaz naturel pour avoir une taille en fait de bulle plus grosse, pour une eau qui va être plus carbonatée et qui va être consommée plutôt en apéritif. Avec une rondelle de citron. Voilà, la bulle en éclatant sous le palais avec la rondelle de citron va venir vous rafraîchir et c'est une eau que vous appréciez vraiment davantage en apéritif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être les eaux aromatisées. C'est une tendance de ces dernières années.
On en voit beaucoup, effectivement.
Exactement. Et là aussi, il y a eu deux grosses innovations de Quézac cette année sur lesquelles on prend l'eau minérale naturelle, on met des arômes naturels pour aromatiser. Donc, sur Quézac, c'est soit citron vert, soit pêche-thym. Ce sont les arômes que les consommateurs nous ont demandé. Et on ne rajoute rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre et il y a moins de 1 calorie, en fait, pour les 100 ml. Ça vous permet d'avoir une boisson un peu plus gourmande, mais vraiment très saine. La troisième chose, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur la marque au jeu, c'est-à-dire qu'on va développer tout un type de boisson et de soda, mais à partir de l'eau minérale naturelle. Par exemple, un des fleurons du groupe sur au jeu, c'est la limonade au jeu, qui est un vrai best-seller en fait dans le Sud-Ouest, qui est une limonade qui existe depuis 1955, qui est à la base de l'eau minérale naturelle gazeuse d'au jeu, dans lequel on va rajouter des arômes naturels de citron, et vous allez avoir une super limonade, beaucoup moins sucrée que les concurrents, et une boisson qui reste saine pour un soda.
Et donc c'est du boulot, hein, on a l'impression que voilà, l'eau minérale, ça peut paraître simple comme produit, mais on l'a bien compris, entre les bulles, les arômes, on essaye constamment d'innover pour pouvoir séduire une cible de plus en plus large, et les Français aiment leurs eaux minérales naturelles. Merci beaucoup. Exactement. Mathieu Lignac, pour cet éclairage.
Et je vous en prie.
Et je vous souhaite également un bon dimanche.
Merci, bonne journée Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Il vous l'a annoncé en début d'émission, Thibaut, notre French Trotter, parcourt pour nous le GR20, ce sentier de grande randonnée qui traverse la Corse en diagonale du nord au sud et sur le chemin. Il a tendu son micro à d'autres marcheurs.
Oui Nathalie, je suis sur le fameux GR20, la portion sud, et je suis parti ce matin, très tôt ce matin, de Visabona. Je me dirige vers le col de Capanelle. Et là, en chemin, je croise Valérie. Comment ça va Valérie?
Ça va, un peu fatiguée, mais ça va.
Ça va?
Ça va.
Alors racontez-nous, vous êtes parti quand?
Alors la date exacte, je ne sais plus, mais on est parti dimanche dernier.
Est-ce qu'on perd la notion du temps sur le GR?
Oui. On ne sait plus les jours, on ne sait plus rien. On sait juste l'heure. Parce qu'on a la montre.
D'accord.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce GR?
Ben, c'est l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, on s'était dit, on aime bien la Corse, pourquoi pas faire le JR20. On fait de la montagne dans les Pyrénées, et puisqu'on est de Pau.
Ah, ben, très bien, vous écoutez Sud Radio alors?
Un petit peu.
Très bien.
Et l'année dernière, quand j'ai fait le Nord et arrivé à Visavona, je me suis blessée. J'ai eu une fracture de fatigue, donc on a dû arrêter.
D'accord, et, mais là je vois que vous êtes repartie, vous êtes bien vaillante.
Et on s'est dit, on reste pas sur un échec, on recommence. Et donc voilà, je recommence. Là on a fermé le Nord avec Dominique de Pau et mon mari Alain.
Ah non, d'accord.
Voilà. Et le Nord s'est bien passé, dur, mais c'est fini.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, physiquement, moralement?
C'est pas du tout les mêmes chemins que dans les Pyrénées, donc on a été surpris par les cailloux, il n'y a que des cailloux.
La raideur aussi.
La raideur, parce que généralement on a le refuge et on démarre le dénivelé jusqu'en haut, sans plat ni rien, avec des gros cailloux, de l'escalade. Cette année on a pris l'orage, la grêle, la pluie, il a fallu escalader, c'était un peu compliqué. Mais bon, on est content d'être arrivé à Visavona. Et on attaque le sud.
Qu'est-ce que vous avez marqué là pendant ces quelques jours là jusqu'à Visavona? Il y a eu des rencontres, il y a eu des...
Alors ce qui est sur le Gervien, ce qui est bien, c'est qu'on fait de belles rencontres. Et on est, je ne sais pas pourquoi, on est complètement déconnecté de la civilisation. Déjà, il n'y a pas les Internet, donc ça, les gens se parlent.
Je peux témoigner, plus d'Internet, plus de Facebook, plus d'Instagram.
Plus rien.
Donc plus rien,
les,
plus
gens, les gens se parlent.
Les gens se parlent, et puis il y a des petits groupes qui se forment.
Voilà, comme puisque, on est en train de faire, on se parle.
Voilà, ouais. Puisque chaque jour, on se retrouve tous à la même étape, avec des niveaux différents. On se fait doubler, tout ça. Mais bon, voilà, c'est sympa. On rencontre des gens. Et puis, les paysages aussi sont magnifiques.
Oui, oui.
Mais après, au niveau de la... On oublie que c'est dur après. C'est vrai, une fois que tu as fini, on oublie que ça a été parfois très dur. Des fois, j'ai pleuré, tout ça. Parce que j'en avais ras-le-bol. C'est pas forcément le plus facile, mais bon, voilà.
Vous êtes en autonomie, vous, ça passe comment?
Non. Moi, j'ai un sac de 9 kilos avec 2 litres d'eau, ça fait 11. Et tous les soirs et tous les matins, on mange au refuge et on petit déjeuner au refuge aussi.
D'accord.
Le midi, on s'achète des petites salades qu'on mange comme ça sur la route et puis voilà.
Est-ce qu'il y aura un autre challenge après?
La retraite.
Non, je me disais pourquoi pas faire
le
GR10, mais
morcelé un peu par chez nous
dans les Pyrénées. Ben là,
chaque année faire une étape, se programmer une semaine où on fait chaque jour une étape.
Écoutez,
voilà.
Bon courage, bravo,
merci.
Beau challenge.
Merci, bonne route. Merci. Et puis on continue.
Alors depuis que je marche sur ce GR, j'ai appris une chose primordiale, c'est qu'il faut savoir économiser. Alors d'abord, il faut savoir économiser ses efforts, parce que le matin, si on part bille en tête, on n'est pas sûr d'arriver le soir au refuge. Ensuite, il faut savoir économiser son eau. Le matin, on part avec 2 ou 3 litres d'eau sur soi, et on n'est pas sûr de pouvoir se ravitailler en cours de journée, donc il faut tenir avec cette ration d'eau. Il faut aussi savoir économiser du poids quand on fait ses bagages, parce qu'un kilo supplémentaire, c'est un effort supplémentaire. Enfin, il faut savoir économiser la batterie de son portable, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le recharger le soir. C'est pas tant pour surfer sur Internet, la 4G, non, elle passe pas. Mais c'est surtout pour avoir un GPS qui peut s'avérer bien utile si on perd sa route.
Merci Thibaut. Pour ceux qui s'apprêtent à faire le GR20, il faut écouter vos conseils, on a compris. Économiser du poids et de l'énergie. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. On va se quitter une poignée de secondes et on se retrouve juste après. On ira cette fois-ci du côté de Lourdes. On ira prendre des nouvelles de Lourdes et notamment de ce 15 août qui a été très très important pour le sanctuaire. A tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et je vous emmène tout de suite à Lourdes. Notamment chaque année, normalement chaque année, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes accueille 6 millions de fidèles, dont 60 000 malades dans le cadre des 60 pèlerinages qui sont programmés. Et le plus important, c'est bien évidemment celui du 15 août. Et bien justement, nous allons en parler tout de suite avec Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de Lourdes, du sanctuaire de Lourdes.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, effectivement, comme je le disais, habituellement, vous accueillez 6 millions de fidèles. Cette année, c'est un peu particulier. Comment vous avez fait pour justement réaménager un petit peu les lieux pour pouvoir accueillir quand même les fidèles? Et ensuite, on parlera de ce 15 août qui est l'un des temps forts chaque année.
Le sanctuaire de Lourdes a vécu cette année une période inédite, bien évidemment. D'abord parce que pour la première fois de son histoire, il a fermé pendant 2 mois, pendant le temps du confinement. Mais ces 2 mois n'ont pas été des mois vides parce que le sanctuaire n'est pas resté mort. Et pendant toutes ces semaines, les chapelains, c'est-à-dire les prêtres qui sont au service du sanctuaire, se sont succédés à la grotte pour une prière continue afin de porter dans cette grotte et devant Marie les centaines de milliers d'intentions de prière que nous recevons du monde entier et dans toutes les langues. Parce que Lourdes est une ville qui est connue mondialement et dans toutes les régions du monde, il y a des grottes, des répliques des grottes de Lourdes ou des paroisses Notre-Dame de Lourdes. Donc je crois que Lourdes a vraiment vécu. Et puis, lorsque le confinement s'est arrêté, nous avons bien entendu rouvert avec beaucoup d'émotion et de joie les portes du sanctuaire, parce que si Lourdes a besoin des pèlerins, je crois que les pèlerins ont besoin de Lourdes aussi.
Bien sûr,
oui. Et évidemment, la très grande majorité des pèlerinages ont été annulés cette année pour des raisons sanitaires que nous connaissons, mais ça ne veut pas dire pour autant que le sanctuaire est vide. Chaque jour, il y a environ entre 10 et 20 000 personnes qui passent au sanctuaire de Lourdes, qui sont des pèlerins individuels plutôt que des groupes constitués, mais qui viennent là vivre une expérience dans cet esprit de Lourdes qui est si significatif, expérience de paix au pied de la grotte, de fraternité aussi.
Donc le profil des personnes qui viennent justement au sanctuaire est un peu différent par rapport aux années précédentes?
Oui, il est différent parce que habituellement nous avons une majorité de pèlerinages organisés qui viennent de tous les pays du monde et que ces pèlerinages aujourd'hui ne viennent pas.
Oui.
Mais ce sont des petits groupes ou ce sont des familles qui viennent principalement de France, mais depuis quelques jours aussi d'Italie, d'Espagne, un peu de Belgique également, donc des pays européens proches de chez nous, et qui viennent parce que Lourdes est un lieu qui les attire et parce qu'ils veulent vivre cette expérience unique qui s'y vit de rencontre de Marie.
C'est le premier lieu de pèlerinage en France.
Oui, Lourdes fait partie des 4 grands sanctuaires mondiaux. Il y en a au Mexique, Guadalupe, Aparecida au Brésil et Fatima au Portugal. Mais Lourdes est un des grands pèlerinages, lieux de pèlerinage du monde et le premier sanctuaire en France au niveau de l'affluence.
Alors, il a fallu organiser donc le traditionnel pèlerinage du 15 août, hein, celui de l'Assomption, avec seulement 5 000 visiteurs contre plus de 25 000, c'est ça habituellement ?
Alors, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que habituellement le pèlerinage national inscrit environ 7 500 pèlerins qui viennent et qui sont rejoints par ailleurs 7 500 ou 10 000 autres individuels. Cette année, le pèlerinage national avait inscrit 500 pèlerins et ils ont été rejoints par quelques milliers qui sont venus pour participer aux célébrations. Qui en plus de ça, cette année, était présidée par le cardinal Parolin, qui est le numéro 2 de l'Église catholique, le premier collaborateur du pape François. Et donc, il y a eu, dans le respect total des normes sanitaires et des normes réglementaires, avec un plan qui avait été validé par le préfet, des pèlerins qui se sont succédés et qui ont participé aux différentes célébrations. Pas plus de 5 000, effectivement, au cours de chaque célébration, mais les célébrations ont pu se succéder pour que plusieurs milliers de personnes puissent vivre ce 15 août dans le sanctuaire de Lourdes.
Comment les habitués, justement, du pèlerinage, des célébrations de l'Assomption vivent cette période, ont vécu cette période? Et je pense notamment à certains malades, hein, pour qui le pèlerinage est très important.
C'est certain que cette année, une des particularités de la vie de Lourdes, c'est que les malades sont absents. Ils sont absents physiquement, mais ils ne sont pas absents réellement.
Oui.
Parce que d'abord, ils nous envoient des intentions de prière et qu'ils sont vraiment la spécificité du sanctuaire de Lourdes, c'est la présence des personnes malades et vulnérables. Ensuite, parce que toutes les personnes vulnérables ne sont pas des personnes malades et qu'on peut accueillir par exemple des personnes qui sont handicapées, qui sont en fauteuil, qui ne sont pas forcément vulnérables, mais qui ont une forme de maladie ou de handicap. Enfin, parce que Lourdes, ce qui est important, c'est la rencontre. À partir de cette rencontre initiale entre Marie et Bernadette, c'est la rencontre entre les malades et ceux qui les accompagnent, qu'on appelle des hospitaliers.
Oui.
Et ces hospitaliers sont là. Et ils viennent en leur nom, mais ils viennent aussi au nom de tous ceux que d'habitude ils accompagnent. Et donc c'est par leur intermédiaire que ces malades sont présents.
Ah oui.
Mais je souhaite vraiment que très vite et le plus vite possible, les personnes malades puissent venir ici, parce que Lourdes, c'est le lieu de la guérison des corps et des cœurs. Les malades ne sont pas tous guéris, bien évidemment, mais je pense qu'ils peuvent trouver à Lourdes une acceptation, un apaisement dans leur maladie et que ceux qui les accompagnent sont une source de joie et de fraternité.
Donc les hospitaliers sont là, mais effectivement les fidèles vulnérables n'ont pas pu faire le déplacement. Mais effectivement, ils ont leurs ambassadeurs qui sont là.
C'est ça, c'est leurs ambassadeurs qui sont là. Et à l'occasion du pèlerinage national, comme dans d'autres pèlerinages, ces hospitaliers sont en même temps en lien avec d'autres qui vivent dans leur diocèse d'origine, donc là d'où ils viennent, pour vivre un vrai service auprès des malades qui sont restés chez eux. Et donc le pèlerinage est aussi l'occasion d'avoir des visites, d'avoir une aide particulière pour les malades qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui pendant le temps du pèlerinage sont aussi visités sur place par d'autres hospitaliers.
Alors parmi les temps forts de ce sanctuaire de Lourdes, il y a l'accès à la grotte. Les pèlerins ont l'habitude d'y aller, de toucher directement le rocher. Tout ça est encore possible aujourd'hui ?
Alors, il y a un certain nombre de gestes qui sont très significatifs et représentatifs de Lourdes. Effectivement, toucher le rocher, mais ce n'est pas possible aujourd'hui, mais il est toujours possible de se recueillir devant cette grotte et de venir y déposer son fardeau. Mais il y a aussi d'autres gestes qui sont possibles, le geste de la lumière. Les processions sont un signe extrêmement important de Lourdes, et ces processions ont lieu tous les soirs, pour permettre que justement les pèlerins puissent brandir ce cierge et prier ainsi Marie, comme Bernadette le faisait d'ailleurs lorsqu'elle allait à la grotte. Aussi le geste de l'eau. S'il n'est pas possible de se baigner dans les piscines, pour des raisons évidentes de respect des normes sanitaires, il est possible de rentrer à l'intérieur des piscines pour recevoir de l'eau de la main des hospitaliers et se laver le visage pour signifier ainsi et obéir ainsi à ce que Marie avait demandé à Bernadette, allez à la fontaine, boire et vous y laver.
Oui.
Et donc ces gestes demeurent possibles et ils sont importants parce que Lourdes, c'est le lieu où la foi s'exprime par les gestes, vous savez, non pas simplement par des mots, mais par ce cœur vibrant qui fait confiance et qui se manifeste dans des gestes tout simples qui sont ceux du sanctuaire de Lourdes.
C'est vrai que cette période, elle reste compliquée, mais voilà, il faut garder espoir, hein, faut être confiant et en vous écoutant, on comprend comment vous avez réussi finalement à presque faire oublier cette période sanitaire et on essaye vraiment dès qu'on arrive dans ce sanctuaire de Lourdes, on est quand même happé par le lieu et on essaie de le vivre le plus simplement possible.
Oui, c'est pour ça que je crois qu'il faut revenir à Lourdes. Vous savez, tout ce qu'on fait par le numérique, et c'est très important, et nous l'avons développé au cours de ces dernières semaines et ces derniers mois, mais ça ne remplacera jamais le fait de quitter chez soi pour venir en pèlerinage. On ne fait pas un pèlerinage dans son canapé. Et Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où on a besoin d'y être pour retrouver d'autres personnes. C'est un lieu où se vit un esprit tellement particulier, tellement unique et spécifique, que c'est uniquement sur place qu'on peut y aller. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on peut aller en toute sécurité à Lourdes et j'invite les pèlerins à rejoindre ce lieu pour y vivre un moment fort.
Oui, alors, et là, effectivement, ça vous concerne moins, mais je pense aussi aux hôteliers, aux restaurateurs, aux commerçants qui sont là, notamment les hôteliers qui accueillent en général les fidèles à cette période de l'année. Et je pense qu'effectivement, cette période est aussi très compliquée pour eux.
Elle est très compliquée et cela me concerne parce que je pense que Lourdes, c'est un ensemble.
Oui,
et
c'est une famille.
C'est une famille et que sanctuaires, hôteliers, restaurateurs, magasins, élus, tous nous sommes attelés à la même tâche pour que notre ville puisse vivre et pour que le pèlerin soit accueilli.
Merci beaucoup, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci.
Merci à vous.
Et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Allez, on va quitter l'Occitanie pour la Nouvelle-Aquitaine, redécouvrir ensemble la dune la plus haute d'Europe. A tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Maria DeVos, directrice du syndicat mix de la Grande Dune du Pilat. Bonjour Maria.
Bonjour.
Alors justement, je lançais ça un petit peu en devinette, mais j'ai donné la réponse. Quelle est la dune la plus haute d'Europe ? Eh bien, c'est la dune du Pilat. Combien d'altitude ?
Alors, la dune culmine à plus de 100 mètres. Ouais. Elle est mesurée chaque année par l'Observatoire de la Côte Aquitaine. Et c'est effectivement un site emblématique de la Nouvelle-Aquitaine.
C'est le site naturel le plus visité de la Nouvelle-Aquitaine. Combien de touristes vous recevez en général chaque année ?
Alors effectivement, c'est le site naturel le plus fréquenté avec un peu plus d'1,5 million de visiteurs par an. Ouais. Et son attractivité est liée, vous l'évoquiez, à ses dimensions hors normes et au magnifique panorama qu'elle offre à son sommet. Mais la dune, c'est avant tout une particularité sur le littoral aquitain, une particularité géomorphologique. Et c'est un espace naturel avec des composantes paysagères extrêmement fortes, puisque le grand site, ça n'est pas que la dune, c'est aussi l'océan que la dune domine, et également le massif forestier qui s'étend à l'est de la dune et qui fait partie de manière conséquente aussi classée, puisque donc la dune et la forêt usagère de la Thèse sont classées depuis 1994.
Alors votre travail, c'est vrai qu'il n'est pas évident, parce qu'il y a du monde, cette dune a beaucoup de succès, vous avez un plaisir aussi donc, à en parler, à la mettre en avant, ça fait partie des richesses de la région, et en même temps, vous devez gérer cette affluence de personnes, puisqu'elle elle peut être en danger si elle est foulée, j'imagine, par trop de visiteurs.
Alors le piétinement des visiteurs, il ne nuit pas à la dune elle-même, puisque elle est modelée par les éléments naturels qui sont extrêmement puissants. En revanche, le piétinement des visiteurs est une lourde contrainte pour le massif forestier.
Ah d'accord.
Le stationnement sauvage, les cheminements secondaires, parce qu'ils sont source de dégradation. Malheureusement, on trouve aussi beaucoup de dépôts de déchets. Et puis également, il y a un risque incendie qui est assez conséquent.
Oui.
Donc oui, notre mission est double. Elle s'inscrit dans le cadre d'une politique portée par le ministère de l'Environnement, la politique des grands sites de France. Et elle vise à la fois à protéger des espaces naturels fragiles et protégés, donc classés au titre de la loi 1930, mais avec aussi l'objectif de maintenir leur accès ouvert à tous.
Ouais.
Donc notre mission, elle est effectivement pas toujours très simple, mais elle consiste à trouver cet équilibre entre la préservation et l'accueil du public.
Et c'est ça la découverte de cette dune.
Voilà, et c'est à travers des actions de pédagogie que nous nous employons à sensibiliser les visiteurs. Qui bon, ne sont pas des spécialistes de géomorphologie ou de choses comme ça. Donc nous nous employons à nous adresser à chaque visiteur comme à une personne, à un individu, et non pas à un élément de masse au milieu d'une foule, et d'aller toucher leurs fibres environnementales et leur faire comprendre pourquoi il y a certaines règles à respecter sur
que cette
ce
beauté
lieu.
Des lieux, elle se mérite et il faut justement la sauvegarder.
Voilà, et si surtout on veut pérenniser son accès au plus grand nombre, eh bien il faut se plier à quelques règles pour pouvoir continuer à venir et à revenir sur la dune.
Merci beaucoup Maria DeVos pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Merci et
merci
bon dimanche.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Allez, on va se quitter une poignée de secondes juste après le point info et on se retrouvera cette fois-ci du côté du Pays Basque. A tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Merci Léo Ardourel pour ce point info et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Tout de suite, je vous propose de découvrir une très jolie innovation.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Sauf que là, on n'est pas du tout dans la French Tech, mais on est dans la France qui innove avec Marion Delpy. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, vous êtes à la tête de Tipled, je le prononce bien ?
Tipled.
Tipled. Vous avez eu cette très belle idée. Vous êtes ébéniste de formation, vous avez été formée à Revel. Revel, c'est la capitale de l'ébénisterie en France.
Oui.
C'est là où on ferme les meilleurs ébénistes. Et donc, vous avez eu cette très, très belle idée de fabriquer toutes sortes de matériaux en bois. Votre matériau de prédilection, vous, c'est le bois. Toutes sortes d'accessoires, en bois. Vous aimez ce bois. Et donc, vous avez eu cette belle idée, effectivement, notamment, je pense aux passionnés de vélo, de faire des garde-boue, des porte-bidons en bois. C'est
oui,
assez
c'est
étonnant. D'où est venue cette idée ?
Alors, c'est venu de mon père, qui est un passionné de vélo. Et tout simplement, il avait acquéri un nouveau vélo et il m'a demandé de lui faire une paire de garde-boue en bois pour ce nouveau vélo. Et ça m'a de suite plu, donc j'ai voulu tenter l'expérience et lancer un peu une petite gamme comme ça d'accessoires.
toute une gamme de créations uniques et originales, une petite série comme ça de produits assez étonnants qu'on n'a pas l'habitude de voir en bois. Alors c'est vrai que nous à Sud Radio, on aime bien mettre en avant justement les jeunes talents et c'est vrai que c'est cette formation à Revel qui vous a donné envie là encore d'utiliser ce bois sous des formes complètement différentes.
Oui, durant mes 6 années, j'ai pu voir beaucoup de choses durant ces 6 années à Revel, et notamment les 2 dernières années où j'ai fait un peu plus de recherches sur ce matériau, comment l'exploiter différemment. Et c'est vraiment ça qui m'a passionnée, aller mettre cette matière là où on ne la trouve pas forcément.
Ouais. Alors je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, bon, a priori vous devez connaître où se trouve Revel, mais c'est en Haute-Garonne, en région Occitanie, et c'est vrai que cette commune elle est très connue pour abriter de nombreuses écoles d'ébénisterie et surtout des entreprises spécialisées dans le travail du bois, qui travaillent pour différents types de clientèle, aussi bien les yachts, je pense que c'est ça, c'est-à-dire l'aménagement intérieur des yachts, les hôtels de luxe. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas à Revel en ce qui concerne le bois. Donc vous avez été formé là-bas. Et donc, c'est quoi l'idée suivante? C'est de continuer à développer tous ces accessoires en bois? C'est quoi? Quelle sera la prochaine étape, Marion Delpy?
Alors la prochaine étape, c'est de passer au niveau supérieur et d'aller entièrement sur le vélo, le cadre en bois.
Ah, complètement. Donc, vous continuez avec le vélo.
Voilà.
Donc, une fois que vous aurez fini de refaire tous les accessoires possibles d'un vélo, en fait, il faudrait presque le faire entièrement en bois. Il y a des vélos en bambou qui existent d'ailleurs.
Oui, il y a des vélos en bambou qui existent et certaines entreprises se sont déjà lancées dans le vélo en bois. Alors... Et c'est quelque chose de très intéressant à faire et à conduire.
Qu'est-ce qui vous plaît justement? C'est le défi à relever? C'est le fait que ce soit nouveau, complètement nouveau?
Oui, 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 c'est vraiment ça. C'est l'expérience, l'étonnement chez les gens quand ils découvrent ce type de produit.
Essayer de voir justement jusqu'où le bois peut être utilisé. En même temps, ça permet d'avoir un matériau qui est respectueux de l'environnement.
Oui, tout à fait.
Donc ça fait partie des valeurs aussi de l'entreprise?
Oui, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant, notamment en utilisant des essences de bois françaises, mais aussi de la fibre de lin française, puisque dans mes accessoires pour vélo, il y a de la fibre de lin qui permet un meilleur renfort. Et donc c'est vraiment important pour moi d'utiliser ces produits issus du développement durable et produits en France.
Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que nous sommes les premiers producteurs au monde de lin. Le seul souci, c'est qu'on l'exporte en Asie pour le transformer et on l'importe de nouveau, ce qui est un petit peu dommage. Mais oui, la matière première, elle est effectivement entre la Normandie et les Hauts-de-France. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est d'être sur du circuit court finalement.
Voilà, c'est ça.
On utilise le bois de la région, on essaie de le transformer dans la région également et de faire appel éventuellement à d'autres artisans de la région.
Voilà.
Merci beaucoup Marion Delpy. Et nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire comme ça des petits coups de projecteur sur de jeunes talents. Bravo à vous. Et puis on a hâte de découvrir ce vélo 100% bois. Parce qu'il y a le cadre. Qu'est-ce qui vous manque après? Il y a le cadre à faire et quoi d'autre?
Ah, après, ce sera peut-être des sacoches qui mêleront bois et textile français.
Et cuir, du beau cuir qui vieillira bien.
Voilà.
Merci. Je vous souhaite un bon dimanche. Et bon courage à vous.
Au revoir.
Au revoir. Allez, on va se quitter une poignée de secondes. On se retrouve juste après. Cette fois-ci, on ira du côté du Pays Basque. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et je vous emmène tout de suite pour cette dernière partie de l'émission dans le Pays Basque, découvrir un savoir-faire incontournable.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Andrea Carvalho. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Alors là, on est du côté de Bidart, dans le Pays Basque, découvrir un savoir-faire incontournable, le couteau basque. Vous avez reçu, je crois, l'année dernière 60 000 visiteurs.
Tout à fait.
Donc ça attire du monde. Comment fabrique-t-on un couteau basque?
Alors, donc nous, la particularité de nos couteaux, c'est qu'ils sont faits à partir d'éléments emblématiques de la culture basque. Donc, on va avoir le bois de néflier, le même bois que les cannes de berger, qu'on va travailler pendant 4 à 5 ans avant de pouvoir le mettre sur un couteau. C'est un bois qui va être scarifié sur pied. On va laisser la sève faire son travail pendant quelques mois. Et après, on pourra le travailler sur nos couteaux.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler le bois tout de suite. Hein. On va le stocker dans un endroit, le temps qu'il sèche, en fait. C'est ça, complètement, pour qu'il arrête de bouger, qu'il ne bouge plus.
Exactement.
Et donc, les visiteurs, quand ils viennent vous voir, ils ont une vue sur l'atelier. Ils peuvent voir ces différentes fabrications, étapes de fabrication.
Tout à fait. Exactement. Donc, l'atelier, il est totalement vitré parce qu'on voulait offrir vraiment la transparence sur la fabrication. Donc, ils peuvent voir nos couteliers travailler en temps réel. Et nous, on va tout expliquer. Il y a une petite visite qui dure entre 10 et 15 minutes où on raconte l'histoire de notre coutellerie et bien sûr l'histoire de nos couteaux.
Parce qu'il faut le rappeler, ça c'est vrai que nous on aime mettre ça en avant à Sud Radio, c'est une entreprise familiale. Ça fait combien de générations justement ?
Alors une seule pour l'instant, la deuxième commence à arriver, mais pour l'instant une seule.
La famille Exposito, c'est ça,
exactement.
Stella Abidar, et qui donc souhaite mettre en avant cette tradition de couteau basque. C'est long à fabriquer un couteau ?
Ça dépend des matériaux utilisés parce qu'on va utiliser des matériaux plutôt simples comme le bois, la corne, mais on va aussi utiliser des matériaux beaucoup plus précieux comme le corail, la nacre. Donc pour un couteau, disons simple, ça va mettre entre 5 et 6 heures de montage au minimum. Et pour les couteaux les plus précieux, ça peut aller jusqu'à 2-3 jours de montage.
Ouais. Qu'est-ce qui intrigue le plus les touristes ?
Un peu tout en fait, la fabrication du couteau en lui-même, mais aussi les matériaux qu'on utilise. Comme je vous disais, on utilise du corail, on va utiliser surtout de l'ivoire, de la molaire de mammouth, et ça c'est vraiment le plus particulier. Donc ils sont toujours très intrigués de voir ce type de matériaux, donc ils posent beaucoup de questions à ce sujet-là.
C'est ça, les matériaux intriguent énormément le touriste.
Tout à fait.
C'est vrai que de la molaire de mammouth, on n'en voit pas tous les jours, non.
Tout à fait.
Mais l'essence de bois la plus utilisée, ça reste quoi quand même dans ce pays basque ?
Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, pour nous, l'essence de bois, la principale essence de bois qu'on utilise, c'est le néflier, parce que ça a vraiment une histoire, en fait. C'est vraiment le bois qui est utilisé sur les maquilas, et ici, c'est quand même un bâton emblématique, en fait. C'est un
bien
bâton
sûr, des marcheurs. Hein.
Voilà,
bien
exactement. Sûr. Et du coup, c'est pour ça que ça nous tient à cœur de travailler ce bois. Donc, c'est le bois le plus utilisé sur nos couteaux. Même si après, on va utiliser les autres un petit peu plus classiques, comme l'olivier, etc.
Est-ce que le couteau basque s'exporte ?
Oui, il commence en tout cas. Jusqu'à maintenant, on avait un peu fermé les portes sur l'export parce qu'on avait un tout petit atelier, donc on n'avait pas assez de production pour pouvoir se lancer à l'international. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à partir dans des hôtels, à partir dans des restaurants à l'international, dans un musée. Dernièrement, il y a 3 semaines, on a expédié des couteaux pour un musée qui va s'ouvrir au Qatar, un musée de couteaux français. Donc voilà, ça commence.
Donc ça montre bien que la coutellerie française, elle intrigue, hein. Elle est bien là, elle est riche de son savoir-faire. Il y a des différences de techniques, justement, de fabrication entre les différentes régions de France ?
Bien sûr. Alors nous, évidemment, on va essayer d'innover aussi sur les techniques de montage, sur les systèmes de fermeture. Nous, on a par exemple 2 systèmes de fermeture qu'on est les seuls à utiliser. Donc évidemment, chaque coutelier essaye de se différencier par rapport à ces systèmes.
Et au niveau de la lame, elle est faite aussi à tiers, comme la majorité de lames de coutelier ou fabriquée ?
Tout à fait. Donc, on a souvent tendance à associer les deux métiers, le métier de coutelier et le métier de forgeron, alors que ce sont 2 métiers différents.
Ah, c'est important de le préciser, effectivement.
Voilà. Donc, du coup, nous, on fait forger nos aciers à tiers. On achète des plaques d'acier qu'on va faire découper au laser. Et ensuite, nous, on va transformer le morceau d'acier en lame. C'est-à-dire qu'on va faire l'émouture, on va tailler l'acier en V et on va lui donner le tranchant.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important de bien faire le distinguo entre ces deux métiers-là. Thiers reste vraiment la ville pour la fabrication des lames de couteau. Et donc, c'est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça reste vraiment la référence en France pour la fabrication des lames. Et donc, vous, après, vous avez le montage et bien évidemment le manche, comme vous le disiez, avec des bois, des essences de la région et aussi d'autres matériaux. La forme peut différer également, j'imagine, entre un couteau layol ou un couteau basque.
Tout à fait. Alors nous, déjà, on a un couteau qui est en forme de piment, donc il est très original. Et on le retrouve évidemment dans aucune autre région. Donc ça, c'est l'une de nos formes les plus appréciées. Et après, on va travailler aussi le modèle Artsaina, qui est le couteau du berger, où on a vraiment voulu donner tous les éléments du maquila à l'intérieur. Et on retrouve un travail de ciselage des platines, pareil qu'on est les seuls à faire et qui est vraiment notre signature.
Est-ce qu'on peut le personnaliser? Parce que vous parlez beaucoup du maquila et le maquila, parfois on a toute une vie qui est racontée sur un maquila.
Tout à fait. On peut, sur nos couteaux, comme sur le maquila, venir personnaliser, mettre des initiales, un nom, un prénom, une devise. Tout est possible.
Merci beaucoup, Andrea Carvalho, de nous avoir fait voyager avec ces couteaux basques. On n'a qu'une envie, c'est venir justement visiter l'entreprise. C'est ouvert toute l'année?
Tout à fait.
Avec le pic, bien évidemment, pendant l'été, j'imagine.
Exactement, c'est ça, juillet-août.
Merci pour votre témoignage et je vous souhaite un bon dimanche, Andrea.
Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Allez, comme promis, la suite des aventures de Thibaut, notre French trotteur, qui partage avec nous ses impressions et ses rencontres sur le GR20.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French trotteur.
Voilà, ce qui est vraiment agréable quand on fait le GR, c'est non seulement de pouvoir admirer ces magnifiques paysages de montagne, mais c'est aussi entendre au loin les sonnailles. Car on croise très souvent des troupeaux de chèvres ou de brebis. Et j'espère avoir l'occasion d'interroger un berger qui me racontera comment on fabrique ce délicieux fromage corse. Alors là, j'arrive dans la bergerie de Bassetta. Et ce qu'il y a de bien sur le GR, c'est qu'on fait de belles rencontres, notamment un berger. Vous appelez François, c'est ça? Alors il paraît qu'on fait un excellent fromage de chèvre. Mais on est en fin de saison, c'est ça, François?
Ouais, c'est la fin. Ça peut être que je l'ai fait tous les 3 jours.
Tous les 2-3 jours, et vous récoltez combien de lait tous les 2-3 jours pour cette saison?
30 litres.
30 litres? Et on fait combien de fromage avec ça?
Des fromages avec ça.
Alors racontez-moi, comment on le fait le fromage de chèvre? On récolte d'abord le lait?
On récolte du lait, on met de la présure, et on attend 2 heures qu'il devienne dur.
Qui caille,
et après on le casse, et il faut attendre encore 2-3 heures pour ramasser le petit lait. Et après, on le met dans les formes.
Et après, j'imagine qu'il y a l'affinage ?
Il faut attendre une quinzaine de jours pour que le fromage soit bon pour manger.
Quinzaine de jours ? Mais est-ce qu'il peut vieillir un peu ? Est-ce que c'est un fromage qui s'affine ?
Oui, on peut l'affiner même un an, on peut le garder.
Un an, d'accord. Et vous, par exemple, vous le préférez comment, le fromage de chèvre ?
Moi, je préfère entre 3-4 mois. Il y a beaucoup qui le mangent fraise.
Ouais.
Ça dépend des goûts des gens.
Ça fait combien de temps que vous faites du fromage?
17 ans.
17 ans
Mon père était berger, après j'ai repris la relève, mais j'ai fait un autre métier avant.
Ah bon? Vous faisiez quoi si c'était pas indiscret?
Maçon, j'étais.
Maçon, d'accord. Donc retour aux racines, retour aux sources.
Voilà.
Il y a beaucoup de gens qui passent ici? Beaucoup de gens qui font le GR?
Oui, bon, cette année c'est un peu spécial. Hein.
C'est un peu spécial? Ouais.
Mais d'habitude il y a beaucoup de monde.
Et j'imagine qu'ils se régalent, ils vous prennent du fromage en passant.
Ouais.
Vous faites un peu de charcuterie, je crois?
Non, c'est le monsieur.
Voilà, c'est le monsieur qui est à côté. Une nouvelle rencontre toujours sur le GR. Je suis avec Nicolas qui fait de l'excellente charcuterie corse. Alors qu'est-ce que vous faites exactement comme charcuterie?
Saucisson, coq, lombes, prisoute, figaté, les voilà.
Ouais. C'est en quelle saison qu'on fait la charcuterie ici?
De fin octobre à fin février.
Fin février?
C'est ça.
D'accord. Et le reste du temps, donc, vous êtes éleveur, vous tenez cette bergerie aussi?
La bergerie aussi.
Ouais. Alors comment on fait le saucisson? Dites-moi un petit peu pour les auditeurs. Comment ça se passe?
Alors on découpe nos cochons qui arrivent de l'abattoir, on fait toutes nos pièces et tous les mêlés, on met du sel, du poivre, et après le lendemain on met en broyau.
D'accord.
Et on laisse sécher pendant 2 mois.
Vous dites que ça vient de l'abattoir, mais ce sont vos bêtes?
Oui.
D'accord.
On les amène à l'abattoir et après l'abattoir nous le ramène.
D'accord.
Voilà.
Et vous faites sécher à peu près combien de temps?
Et ça dépend, les jambes bon, c'est 14-15 mois, et saucisson c'est un mois et demi, 2 mois, ça dépend du temps après, hein, comment on fait tout le séchoir naturel.
Ouais. Et le séchoir, il est juste à côté?
Oui, juste à côté, au même endroit.
Au même endroit, d'accord.
Dans l'atelier, oui.
Dans l'atelier, donc ça sèche plusieurs mois?
Plusieurs mois, oui.
Plusieurs mois. Et vous, et qui sont vos clients en fait? Ce sont les gens qui sont de passage ici, vous?
Ici,
dans le village.
Les particuliers.
Les particuliers?
Voilà.
C'est une grosse production?
Non, 210 cochons.
110 cochons?
Oui,
d'accord.
Mettez un papier cellophane, mais qu'on a cousu. Voilà.
En ce moment, c'est activité, ça va? Ça va comment?
Ça va, c'est tranquille.
C'est tranquille?
Oui.
Il y a combien de personnes qui passent à peu près chaque jour?
C'est 15, entre 15 et 30 personnes par jour. Hein.
15 et 30,
oui. Oui, après, entre dormir pour un coup, un peu plus qu'avec 40. Ça dépend 40. Des jours. Ça dépend des jours.
Ouais. Et vous voyez l'impact de la crise du Covid?
Ah oui.
Ouais, parce que bien normalement, sûr. L'année dernière, par exemple.
Déjà, on a perdu un mois et demi.
Un mois et demi, oui.
Un mois et demi de travail. Et puis, les gens, ils se méfient plus maintenant de monter.
C'est vrai, à ce point-là, d'accord.
Bon, au début, bah après, maintenant, ça va mieux quand même.
Ça va mieux, d'accord. Et
le premier mois, ça a été un peu calme. Mm-hmm. Sinon, ça va, ça reprend petit à petit son cours. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a septembre, octobre. Si octobre fait beau, on se rattrapera, ça compensera.
Merci beaucoup, Nicolas.
Merci.
Merci à Nicolas et à François qui perpétuent les traditions ancestrales. On sent que la Corse coule dans leurs veines. Allez, on va laisser Thibaut poursuivre sa marche. Et on le retrouve la semaine prochaine pour qu'il nous raconte la fin de son voyage. Je vous souhaite également un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec Blackbird et King Singers. Et juste après, vous retrouverez Alain Marty, son émission In Vino consacrée au vin. Bon dimanche. Singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird. Dark black singing in the dead of night. Take these